prophète, comme juge, comme prêtre ou comme roi. Certains ont été parfois prophètes et prêtres, d'autres ont été prophètes et rois, mais jamais les quatre à la fois. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa sagesse, a toujours permis que les pouvoirs soient partagés entre les responsables appelés à diriger son peuple. Il a le souci de créer des équipes bien coordonnées, comme un ensemble. Et tout ça pour accomplir son but. Depuis que nous avons étudié le livre de Néhémie ensemble, nous avons pris conscience qu'un homme qui était né en exil, qui pourtant faisait partie du peuple de Dieu, est interpellé par la situation désastreuse de la ville de Jérusalem. La cité est en ruine. Le temple a déjà été reconstruit, mais les murailles présentent des brèches qui sont vraiment importantes. On a également vu que Néhémie est un homme de prière qui témoigne de sa confiance en Dieu et qui a décidé de se mettre en action quand il a été saisi par un fardeau qui s'est imposé à lui. Lui qui pourtant n'était pas né à Jérusalem a vu, a entendu le rapport que lui faisaient les personnes qui étaient venues lui parler de l'état de la cité et a été saisi, a prié, s'est mis à genoux devant Dieu pour pouvoir lui confier la situation et demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dieu avait prévenu son peuple de rester fidèle et attaché. Il avait annoncé l'exil, la déportation, si le peuple se détournait de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis après un certain temps, Néhémie a analysé la situation, a décidé de passer à l'action. C'est ce que nous avons entendu dimanche passé. Alors que le peuple est découragé, Néhémie s'est confié dans la souveraineté de Dieu et a décidé de mettre ses compétences de leader au service de la communauté. Arrivé à Jérusalem, il a commencé à faire un état des lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Il était venu avec un grand nombre de matériaux pour la reconstruction, mais il n'a pas voulu imposer son point de vue ou sa manière de faire. De nuit, il a commencé à faire le tour de la muraille, regarder les brèches, les portes, les points de démolition. Certaines portes étaient complètement détruites, d'autres nécessitaient des réparations. Et puis, Néhémie a fait part de son projet aux responsables, dans la douceur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à lui montrer comment Dieu était à l'œuvre depuis qu'il était parti de Suse pour revenir. Et comment ce projet, en fait, était agréé par Dieu. Néhémie a donc le soutien, l'aide de Dieu dans tout ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va fédérer chacun et chacune autour de la reconstruction des brèches. Dieu se suscite donc des équipes d'hommes et de femmes pour son service. Il qualifie des personnes différentes. Des personnes qui ont des compétences, les unes, qui vont se juxtaposer aux autres, dans un ensemble bien coordonné pour la reconstruction. Et je vous invite à suivre avec moi Néhémie chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 32. Le grand prêtre, Éliashib, s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Éliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zaccour, fils d'Imri. Les fils de Séna ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couvert d'un toit, en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Méremoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Meshulam, fils de Berekia, et petit-fils de Meshézabel et de Sadoc, fils de Baana. À côté d'eux, ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bessodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couvert d'un toit, en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mélatia le Gabaudite, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon, le Méronotite, les habitants de Gabaon et de Mitzpa, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux, a travaillé Uziel, fils de Haraja, qui était orfèvre. À côté de lui, Anania, qui était parfumeur. Ils ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. À côté d'eux, Séréphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Jedaja, fils d'Arumaf, et à côté de lui, Hattush, fils de Hashabnia. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashur, fils de Pachat Moab. À côté d'eux, a travaillé Shalum, fils de Halochef, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Hanoun et par les habitants de Zanoa. Ils l'ont reconstruite, en ont posé les battants, les verrous et les barres. Et ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Hakerem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite, en a posé les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kolosé, chef du district de Mitzpa, réparait la porte de la source. Il l'a reconstruite, l'a recouverte d'un toit et a posé les battants, les verrous et les barres. De plus, il a fait le mur du bassin de Siloé près du jardin du roi et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. Après lui, Sénémi, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Betsour, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel, jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, ont travaillé les Lévites, sous la direction de Réhum, fils de Bani. À côté de lui, a travaillé Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla pour son district. Après lui, ont travaillé leurs frères, sous la direction de Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, César, fils de Josué, chef de Mitzpa, qui a réparé une autre partie de la muraille en face de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie, depuis l'angle, jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, et petit-fils d'Akots, a réparé une autre partie, depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Hashub ont travaillé en face de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Masséja, petit-fils d'Anania, a travaillé à côté de la sienne. Après lui, c'est Binoui, fils de Enadad, qui a réparé une autre partie, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils de Uzaï, a travaillé en face de l'angle de la haute tour qui dépasse le palais royal, qui est adjacente à la cour de la prison. Après lui, a travaillé Pédaja, fils de Parioche. Les serviteurs du temple, installés sur la colline de l'Ophel, ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie, en face de la grande tour qui dépasse jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Après eux, c'est Tsadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui, a travaillé Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Après lui, ce sont Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Salaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre. Après lui, Malkija, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mikpad, jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Et voilà, le tour de la muraille est fait. Donc dans ce texte, on voit un grand nombre de noms, de personnes qui se succèdent, des professions différentes, des orfèvres, des parfumeurs, qui vont chacun prendre leur pelle, leur pioche, leur truelle, les outils qu'ils avaient à l'époque pour pouvoir reconstruire. Donc on voit bien que Dieu a mis tout le monde au travail. Chacun était impliqué dans des petites équipes coordonnées par un ou plusieurs responsables. Néhémie, avec l'aide des autres responsables du peuple, avait donné les instructions et vous avez constaté que Néhémie, dont on a parlé au chapitre 1 et 2, est totalement absent de ce passage. Mais on voit qu'il est à l'œuvre derrière et qu'il est conduit par Dieu. Tout ce chapitre 3 nous parle donc de la remise en service et en fonction des différentes portes, de la réparation des brèches. Mais les travaux sur les murailles ne seront pas finis pour autant au bout du chapitre 3 et l'opposition va se déchaîner pour freiner l'avancée des travaux. Mais en même temps, les 10 portes que nous avons vues seront de nouveau fonctionnelles. Et chaque équipe va accomplir les différentes tâches en même temps. Vous avez ici une carte de la muraille de Jérusalem et on va faire le tour au fur et à mesure. Nous avons en premier lieu la réparation des 3 premières portes avec tout d'abord la porte des brebis. Pourquoi la porte des brebis? Vous avez constaté au verset 1 que c'est le grand prêtre, les Lévites, qui vont s'impliquer dans cette réparation. Les Lévites sont donc chargés de cette reconstruction. La porte des brebis nous permettait un accès direct au temple. C'est par là, en effet, que les brebis étaient conduites pour être sacrifiées. Les 2 tours de Méa et Ananéel dominent les murailles en face du temple. Le texte nous dit même que les Lévites consacrent la porte à Dieu, de même que la portion de muraille qui se situe face au temple. Il est donc question de rebâtir toute cette partie qui est consacré à l'Éternel. Pourtant, comme vous l'avez constaté, il n'est pas question de verrou ou de barre pour fermer cette porte. Il est juste question de la réparation des battants, comme s'il fallait garder une ouverture vers l'extérieur. 2e porte qui est réparée par les fils de Séna, la porte des poissons. Elle est appelée ainsi parce que c'est la porte qui conduisait à l'extérieur vers le marché aux poissons, où les marchands venus du lac de Galilée et de Tyr vendaient leurs poissons. Une autre équipe est également à pied d'œuvre. Et au verset 5, nous constatons que les habitants de Tekoa, une petite bourgade qui est située à près de 16 km de Jérusalem, ne vont pas tous se mobiliser pour la reconstruction. Il y a un certain nombre d'habitants, mais les notables et les gens influents vont rester en retrait et ne participent pas au projet. Et donc, tous à Tekoa ne se mobilisent pas. Certains des habitants vont d'ailleurs prendre en charge une autre partie de la réparation de l'autre côté, du côté est, puisque comme vous allez voir, on fait le tour de la muraille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3e porte, plus à l'ouest sur la carte. Enfin, oui, c'est ça, c'est de ce côté-là. Je vais m'emmêler, il ne faut pas que je fasse des gestes parce que je n'ai pas la projection dans le même sens que moi et comme j'ai une très mauvaise latéralisation, je vais forcément me tromper. La 3e porte, la vieille porte, elle semble ne pas avoir été démolie et ne nécessite pas une reconstruction pleine et entière comme les autres. Sur la carte, cette porte est identifiée soit la porte du vieux mur, soit la porte d'Éphraïm. On pense que c'est plutôt la porte d'Éphraïm qui sera évoquée un peu plus loin au chapitre 12 du livre de Néhémie. Cette porte est assez éloignée de la suivante, comme vous pouvez le constater, qui va nécessiter de grands travaux pour réparer également les murailles. Plusieurs équipes sont obligées de se mobiliser pour que le travail avance. Et si vous constatez, on ne le voit pas très bien sur cette carte-là, mais si vous avez une idée de la topographie, c'est la partie de la ville qui est carrément à flanc de montagne, donc dans laquelle les travaux devait sans doute être difficile, ce qui évidemment ne facilite pas le travail de réfection. La porte de langue que vous voyez sur cette carte, il n'est pas question dans le texte parce qu'elle sera construite bien plus tard, au moment où Hérode va installer son palais. Mais le travail que vont faire toutes ces équipes est dense. Et vous avez constaté, même des femmes se mettent à construire. Il y a donc un travail énorme qui est pris en charge par les uns et les autres. Donc après la réparation des 3 portes, on a la réparation des quatre portes suivantes, les versets 13 à 27. Nous avons donc cette fois-ci la partie qui est située à l'ouest. La porte de la vallée, située au sud-ouest, est prolongée également par une importante muraille. Ceux qui sont chargés de la reconstruction ont une tâche qui est énorme à accomplir. Un périmètre qui est long avant d'atteindre la porte suivante, celle qui est appelée la porte du fumier. Notons aussi que la porte de la vallée, c'est par celle-là que Néhémie était sorti pour constater l'ampleur des dégâts et faire le bilan de santé de la muraille et des portes. La porte de la vallée a ceci de particulier qu'elle se situe dans la partie haute de la ville et qu'elle va conduire vers Hébron et Bethléem. Nous descendons tout au long de la muraille pour atteindre la porte du fumier, celle qui est construite juste en face de la vallée de Hinnon, un accès situé au sud de la ville où il était possible de se rendre à la mer Morte, et c'est par cette porte qu'était évacué tout ce qui était impur, tous les déchets, d'où son nom de porte du fumier. Vous constatez qu'elle est à l'opposé de la localisation du temple, directement. Elle était donc le lieu de passage pour l'évacuation des ordures de la cité sainte, et cette porte a été construite par les Récabites. Récabites qui pourtant ne construisaient pas de maison, mais ils se sont engagés avec le peuple à reconstruire la muraille et les portes. Sixième porte, la source ou la porte de la fontaine, l'une des deux portes qui permettait l'accès à la cité de David. C'est par là d'ailleurs que la ville était alimentée en eau, d'où son nom de porte des sources. Ce qui est essentiel, vital, pouvait rentrer dans la cité par cette porte, l'eau qui était nécessaire. Plusieurs équipes se mobilisent à la réparation de ces portes et de ces murailles. Et quatrième porte dans cette nouvelle série, ou septième si vous faites le calcul, la porte des eaux, celle qui permettait le passage aux femmes qui étaient chargées, qui se rendaient à la source du Guion pour chercher de l'eau. Elle était aussi le lieu par lequel le trop-plein d'eau utilisé dans le temple était évacué. Et c'est là que nous retrouvons à l'œuvre les habitants de Tekoa qui consolident la muraille entre la porte des eaux et la porte des chevaux. Et vous voyez que la porte des chevaux est bien plus haute. Il semble donc que ces gens se mobilisent, peut-être parce que les notables n'étaient pas présents. En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Mais on peut imaginer qu'ils avaient à cœur de faire avancer ce projet coordonné par Néhémie. La reconstruction, la remise en fonction des portes et de la muraille avance. Et puis, troisième et dernière étape dont nous parle le texte, la réparation des trois dernières portes. La porte des chevaux, celle qui est située le plus à l'est. Elle donne une grande visibilité sur l'extérieur parce qu'elle domine sur la vallée du Cédron. Les réparations, là aussi, sont effectuées par une partie des Lévites. Pourquoi ? Parce que leurs habitations se situent à ce niveau-là, à proximité du temple. Et vous pouvez constater, vous avez sans doute dû le remarquer à la lecture du texte, que la plupart des travailleurs étaient impliqués à proximité de leur maison et de leur lieu d'habitation. Donc dans cette organisation de l'activité de réparation, beaucoup s'impliquent et n'ont pas forcément de longs trajets à faire pour se mettre au travail. Un point qui est important, parce qu'au fur et à mesure que l'opposition va se développer, eh bien, les uns et les autres seront proches aussi de leur domicile pour se replier, si nécessaire. Les différents ouvriers n'auront donc pas de grande distance à se rendre pour effectuer leurs tâches. Malgré les tentatives d'intimidation qui vont se développer, ils vont pouvoir continuer à se consacrer. Après la réparation des portes de la porte des chevaux, se trouve la porte de l'Est ou porte de l'Orient. Rien n'est dit à ce niveau sur une réparation et une remise en fonction de cette porte. On sait juste que les murailles à ce niveau étaient très abîmées. Et on constate aussi que c'est une porte où un gardien est présent, puisque c'est sans doute l'un des lieux d'accès à Jérusalem les plus faciles. Dernière porte de notre parcours, la porte Mikpad, un mot qui signifie appel, invitation, qui est directement en face du temple, qui permet d'y accéder pour venir adorer Dieu. Et cette fois-ci, ce sont les orfèvres et les marchands qui travaillent à la reconstruction de la muraille. Ce n'est pas des professions qu'on va s'attendre à voir sur le devant de la scène ici. Mais il y a de grands travaux. Et ils sont là. Et ils s'impliquent. Et nous terminons notre parcours jusqu'à la porte des brebis. Voilà des choses importantes qui ont été faites. Un projet de reconstruction mené de A à Z. Qu'est-ce que nous pouvons en retirer pour notre Église aujourd'hui après tout ce parcours où je vous ai emmené découvrir un peu la géographie de Jérusalem, ses portes, ses murailles, la vallée, la montagne? Quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui? Il me semble qu'il y a deux applications pratiques qui se dégagent du fil rouge que nous avons dans notre texte. Comme je vous le disais, ce qui m'émerveille dans ce projet, c'est que c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui a qualifié Néhémie, comme on l'a vu dans les passages précédents, et que une équipe va se mettre au travail, sous la conduite de Dieu, dans un ensemble bien coordonné. Chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, comment, pourquoi, pour que le but de Dieu soit atteint. Et donc la première application que j'ai perçu dans ce texte, c'est que on est devant un ou plusieurs responsables qui prient, analysent avec leurs compétences. Il est clair que Néhémie a fait ce travail-là. Avant la reconstruction des portes et des murailles, en tant que chef de projet, il a su s'appuyer sur Dieu. Il est cet homme de prière qui nous sert d'exemple. Il s'est connecté à Dieu pour entrer dans les projets que Dieu prévoit pour lui. Il est devenu solidaire, ce responsable avec ses qualités spécifiques pour coordonner un tel projet. Il avait ce fardeau à cœur. Il en a parlé aux autres responsables, aux prêtres, aux lévites, à tous ceux qui étaient en position à Jérusalem pour leur expliquer comment Dieu avait suscité son appel, l'avait encouragé. Et on peut imaginer qu'avant de se mettre au travail, même si le texte ne nous le dit pas, puisqu'il nous montre l'énumération des différents travaux, ces hommes, ces femmes, ces personnes qui étaient présentes ont prié avant de commencer leurs travaux, parce qu'ils savaient qu'ils étaient conduits par Dieu. Néhémie est cet homme de prière, c'est un homme de réflexion et d'action, qui a analysé la situation, qui a fait son état des lieux avant de se lancer dans un projet aussi ambitieux. Et la qualité aussi dont il a fait preuve, c'est d'avoir conscience de la souveraineté de Dieu, pour ensuite se mettre en œuvre. Néhémie a donc exposé aux responsables de Jérusalem son bilan, son projet. Et dans toute cette partie du récit du chapitre 3, nous avons vu que Néhémie est absent. Mais il est quand même présent en toile de fond, car c'est lui qui coordonne chacune des équipes de travaux engagé dans cette reconstruction. Alors, dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ, c'est un peu pareil. Nous sommes assemblés dans cette Église, ici à Wittenheim, alors que, au départ, nous n'aurions sans doute rien en commun. Je ne sais pas s'il y a des parfumeurs, des orfèvres parmi vous, ou des personnes qui ont des professions qui n'ont sans doute rien à voir avec l'engagement dans l'Église, mais chacun est appelé à servir là où Dieu l'appelle. Nous sommes réunis parce que le Saint-Esprit nous convainc que l'Église est un corps bien coordonné, que nous nous retrouvons ensemble pour adorer Dieu, pour nous former à son écoute, pour témoigner de notre foi, pour vivre la communion, le soutien, l'entraide, servir notre Dieu. Si vous en doutez, rappelez-vous le texte de Romains qui a été lu tout à l'heure. Notre Église a donc besoin d'un projet clair et cohérent. Chaque Église répond à cette mission précise, celle de témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde et d'encourager chacun à progresser avec Dieu. C'est la mission de l'Église. Alors, chers amis, réjouissons-nous d'avoir des responsables qui prient, qui veulent faire au mieux, qui analysent les situations avec leur regard croisé et leurs compétences. Dieu suscite une équipe pour atteindre son but. Et il a besoin de responsables qualifiés aux compétences et aux caractères différents pour avancer ensemble dans la même direction, celle que Dieu donne pour le développement de son Église. Et quand nous sommes tous au clair sur la mission de l'Église, il devient possible alors pour chacun d'entre nous, sous la conduite des responsables, de construire un projet d'Église. Un projet d'Église ou une vision d'Église, c'est comment l'Église répond à cette mission de témoigner de Jésus-Christ, d'aider les uns et les autres à grandir pour la seule gloire de Dieu. Comment on le fait dans le contexte qui est le nôtre? Et c'est là où chacun d'entre vous a une part à jouer. Chacun est à sa place, avec ses forces, avec ses fragilités, avec ses limites, pour avancer dans le projet que Dieu a prévu. Deuxième application qu'on peut voir, une ou plusieurs équipes se mettent en action autour d'un objectif commun et de rôles clairement définis. La force des personnes impliquées dans la reconstruction des portes des murailles de Jérusalem, au temps de Néhémie, c'est d'avoir à cœur la grandeur et la gloire de Dieu. Ils ont tous compris que c'est Dieu qui les a appelés à construire ensemble ce grand projet. Peut-être que certains ne s'entendaient pas, avaient des attentes, des caractères différents, et pourtant ils sont tous là, au travail. Chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Chacun porte des valeurs personnelles et communautaires qui pourtant leur permettent de s'engager dans un projet commun et d'être des acteurs de terrain. Moi, je n'ai aucune idée de ce à quoi notre église de Wittenheim est appelée demain. Mais je sais que sa mission est clairement d'annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec les hommes par Jésus-Christ. Et je sais aussi que sa mission, c'est d'aider chacun et chacune à s'impliquer, à grandir ensemble pour que Dieu soit glorifié. Et de là découle une vision ou un projet d'Église. Alors, c'est un chantier, il y a de la construction à faire, mais il faut se poser aussi plusieurs questions. Qui sommes-nous en tant qu'Église? Que devons-nous faire en tant qu'Église? Pourquoi? Dans quelle situation sommes-nous appelés à le faire? Comment pouvons-nous le faire? Et seulement, après une cinquième question qui découle des autres, quelles devraient être nos activités? Quand j'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, de travailler avec une église autour d'un projet d'église, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'on avait commencé à répondre à la cinquième question avant de traiter les quatre autres. Et quand on demandait, mais pourquoi on fait telle activité, moi qui étais un peu l'étranger qui débarquait, la réponse c'était, mais on a toujours fait comme ça. Alors, est-ce que ça répond toujours au contexte ou pas? Ça, je pense que c'est des questions qui doivent être traitées en Église. Et chacun, sous la conduite des responsables, doit pouvoir avancer, construire ensemble et réfléchir si ce qu'on fait répond toujours à cette mission essentielle à laquelle Dieu nous appelle. Alors, chers amis, pour conclure, je voudrais simplement que nous retenions que Néhémie a été choisi par Dieu, qu'il a été conduit par lui pour accomplir un tel projet. Il a fait preuve de confiance en Dieu. Deux fois, il a prié, il a analysé la situation, il a présenté son analyse aux autres responsables et ces derniers se sont tous mobilisés avec le peuple pour passer à l'action. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Nous sommes tous invités à nous mobiliser pour entrer dans les projets que Dieu a prévus pour nous. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous partager un petit souvenir qui reste gravé dans ma mémoire. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire une visite à un des aidés de l'église où j'étais, qui était en maison de retraite, et qui me disait, moi je suis prêt, j'attends juste que Dieu vienne me chercher. Et il me dit, c'est vrai que j'ai plus la communion, je peux plus venir à l'église, etc. Mais le fait que vous veniez me voir, que d'autres viennent, ça me réconforte le cœur. Mais vous savez, je reste en lien avec vous parce que je vous porte dans mon cœur et je prie pour vous tous les jours. Alors que moi, je venais pour encourager ce brave frère, c'est moi qui suis ressorti très encouragé. Et un autre de nos aînés qui avait exercé aussi des responsabilités pastorales pendant des années au service de cette église et qui me disait dans les larmes, il dit, mais j'ai l'impression de ne plus pouvoir rien faire dans l'église. Et je lui dis, mais vous continuez à prier? Il me dit, ben oui. Et je prie pour vous et pour les membres de l'église. Je dis, mais c'est énorme. Vous faites beaucoup plus que ce que d'autres peuvent faire, qui sont mobilisés par d'autres actions. Et on a besoin de ces prières. Eh bien voilà, vous avez, chers amis, chers frères et sœurs, des dons, des compétences que vous pouvez utiliser. Si vous pensez ne pas en avoir, excusez-moi de vous dire, c'est faux. Vous en avez. Si vous dites que vous ne savez pas quels sont vos dons, là, je suis prêt à l'entendre. Mais dire que vous n'en avez pas, c'est archi faux. Parce que Dieu nous qualifie tous avec des dons, avec des compétences pour nous mettre à son service. Et si vous ne savez pas quels sont vos dons, je vous invite à prier, comme l'a fait Néhémie, à échanger avec les responsables pour se préparer aux travaux que Dieu nous demande d'accomplir. Parce que c'est le rôle des responsables de discerner les dons et les compétences, et de nous encourager à nous mettre en route pour accomplir le projet de Dieu pour notre Église. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ qui veulent suivre le Maître, nous le ferons, chacun à notre niveau. Alors, peut-être si nous ne sommes pas encore au clair sur cette question, si nous n'avons pas compris ce que Christ a fait pour nous, ce n'est pas encore trop tard. Rappelons qu'il y a un changement radical depuis le temps de Néhémie. Jésus est venu jusqu'à nous pour donner sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est remonté auprès du Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que ce qu'il a fait devienne vrai pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas moi qui peux vous convaincre que Jésus-Christ est le seul Sauveur, le seul Seigneur. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais si vous le croyez fermement, chers amis, faisons comme au temps de Néhémie, au travail. Et il y a du boulot, c'est un chantier. Je ne dis pas que l'église de Vitanheim est en ruine, je ne me permettrai pas, sinon les responsables vous attendrez à la sortie. Mais il n'empêche que c'est un chantier en perpétuelle évolution que l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent, d'autres qui partent, ceux qui se forment à nos côtés, qui vont partir au loin en mission. Mais c'est génial. Moi, j'ai toujours été émerveillé de voir dans les églises des personnes qui avaient des dons. On était content quand elles servaient à l'église, mais alors moi, j'étais aussi content quand elles allaient servir ailleurs. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, hein, pas tous à la fois. Mais néanmoins, le fait de pouvoir se mobiliser, de pouvoir mettre ses dons, de profiter de ce temps où nous vivons en église pour grandir les uns avec les autres, de rester connecté avec l'église qui nous envoie, et c'est ça qui importe, pour servir d'autres, c'est tellement, tellement précieux. Alors, on a un chantier de reconstruction à faire, qui est celui de notre Église. Eh bien, chers amis, que Dieu nous vienne en aide et que lui seul en retire toute la gloire. Dieu suscite une équipe pour atteindre ses buts. Et vous avez chacun, chacune, un rôle à jouer pour reconstruire ce qui a lieu de reconstruire. Eh bien, que Dieu nous aide à être des membres actifs. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole partagée, pour cet exemple de Néhémie. Nous te disons merci parce que tu es venu jusqu'à nous par Jésus-Christ. Tu t'es révélé à nous et tu sais toi-même quels sont les chantiers à l'œuvre ici à Vitanheim. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner d'être à ton écoute, à l'écoute de nos responsables pour avancer ensemble dans la direction que tu as choisie. Tu nous qualifies les uns et les autres pour ton service, et bien que ceux qui ne sachent pas encore ce à quoi ils peuvent agir, tu puisses toi-même te révéler à eux, les encourager, que tu puisses conduire aussi les uns et les autres dans l'assemblée à discerner les dons et en particulier nos responsables. Et Seigneur, que tu puisses qualifier chacun pour la tâche qui est devant toi. Nous savons que c'est toi qui as suscité l'importance du partage des tâches, du travail en équipe, et nous voulons croire que c'est ce que tu vas faire aussi pour nous, pour que ton Église grandisse en sagesse, en ombre et qu'elle puisse rayonner de ta gloire et de ta grâce. Et nous voulons nous attendre à toi pour cela et nous te disons notre reconnaissance. Amen.